Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour à toutes et tous, bonsoir, on fait le match 18h30, 20h, chaque samedi, vous le savez, bienveillance, info, débat, échange avec vous tous bien évidemment, émission 100% interactive, filmée sur rtl.fr ou via l'application et à retrouver le plus vite possible en replay, vos messages aussi sur Twitter, le compte @rtlfoot. Avec moi en studio ce soir, Philippe Sansfourche, chef de la rubrique foot de RTL et avocat commis d'office pour justifier le pénalty du PSG hier soir contre Angers. Bonsoir.
Je vois que la justice est expéditive dans cette émission. Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, Socios, carte numéro 1 du Clermont Foot, ça tombe bien. Match de 17h, Clermont mène face à Lille sur le score d'un but à zéro. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir, j'ai pas mis les pieds au Gabriel Montuyer depuis 10 ans, mais sinon ça va.
Gilles Verdez, le procureur dont fait le match, mais parfois des causes perdues également. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Baptiste Després, la plume du Figaro. Et à chaque fois que je cite le Figaro, je pense à un
Il
ami.
Il n'en reste plus qu'une.
Non, je pense à un ami.
Il y en a beaucoup plus.
Ex-confrère de ce journal, Jean-Yves Denor, qui depuis tant et tant d'années s'est exilé en Colombie. Il y a peut-être une filière là-bas. Vous savez ce qui vous attend, Baptiste. Bonsoir.
Pourquoi pas. Bonsoir, Christian. Bonsoir à tous.
À 20h, les quatre mousquetaires de RTL Foot, alors que chacun sait qu'il n'était que trois. Éric Silvestro, Xavier Domergue. Il s'agit également de Giovanni Castaldi et de Baptiste Durieux. Et puis à 21h, Raphaël Vantard pour l'intégralité, mais pas seulement, de Lyon-Monaco. Joli choc de la 10e journée du championnat de France de Ligue 1. Au menu ce soir, messieurs, faut-il supprimer le ou la VAR? Bref, faut-il supprimer l'arbitrage vidéo? Première question. Emmanuel Macron, meilleur récupérateur ou meilleur relanceur? Neymar, est-ce le début de la fin? Arsène Wenger, est-il en roue libre? Furiani, 5 mai sans match, est-ce la meilleure solution? Le retour du championnat ce week-end après la Ligue des Nations, enfin, car on se régale, est-ce que c'est votre avis? Le calendrier foot, est-ce que c'est le calendrier de tous les dangers? Les clubs français sont-ils irrespectueux vis-à-vis de leurs internationaux africains alors qu'approche la Coupe d'Afrique des Nations? L'équipe de France, après la pluie, le beau temps, avec le baromètre d'Oxa RTL Kineo. Et puis avant 20h, les tirs au but, tout le reste de l'actualité, vous le savez. Questions, réponses, les plus faibles,
il y en a beaucoup.
Quitte le studio. Et attention au classement général provisoire. Trois co-leaders ici présents. Quel match juste avant 20h. Philippe Sansfourche, Sébastien Tarago et Gilles Verdez. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match sur RTL. On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Allez, c'est parti, on fait le match. Sébastien Tarago, Gilles Verdez, Baptiste Després, Philippe Sansfourche et Guillaume Frixon à Clermont. Clermont mène face à Lille. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Toujours un but à zéro pour les Clermontois.
Oui, effectivement, dernier quart d'heure et toujours un but à zéro pour Clermont. Mais depuis un bon quart d'heure, c'est une déferlante lilloise là qui s'abat sur la moitié de terrain clermontoise. Ils sont dominés, ces Clermontois, avec peut-être ici une action dans la surface. Le ballon sur Iconé et la frappe qui passe juste à côté. C'est compliqué pour Clermont, mais toujours un but à zéro pour les Auvergnats face à Lille. Il reste 14 minutes à jouer.
On n'oublie pas vos messages sur Twitter, le compte @RTLFoot relayé par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Alors messieurs, situation d'urgence, là je vais vous laisser débattre, vous n'allez pas m'entendre, je n'en peux plus, j'ai eu le tort d'avoir eu raison trop tôt, en toute modestie bien sûr. Le ou la VAR est un fiasco. Faut-il supprimer cette escroquerie du football français? Rappel des faits pour ceux qui se sont éloignés de l'actu d'hier. Le PSG a battu Angers 2-1, fin de match 1 partout, attaque parisienne, faute d'Icardi sur Thomas, entrée de surface de réparation, Langevin est projeté à terre, l'action se poursuit en direction du même Icardi, tête ratée, c'est pas grave, qui rebondit sur la main de Capel, pénalty transformé par Mbappé, victoire du PSG 1-0. Faut-il supprimer la vidéo?
Christian, vous venez de l'expliquer de la manière la plus fluide et la plus simple possible.
Merci.
Et malgré tout, je pense qu'il y a plein de gens qu'on a déjà perdu.
Ah bon?
Bah sur l'explication, c'est en fait... Le développement que je souhaite faire, c'est que le VAR, ou la VAR, je ne sais toujours pas, devait simplifier, fluidifier le football. Elle l'a complexifié. C'est-à-dire que l'arbitrage, ça doit être simple, ça doit être binaire. C'est pas gris, c'est blanc ou c'est noir. Donc, si l'assistance vidéo peut aider sur le hors-jeu, comme la goal line technologie a pu aider sur le ballon à franchir la ligne ou pas. On est hors jeu ou on n'est pas hors jeu. Le ballon a franchi la ligne ou pas. Ça, c'est simple, c'est binaire, on comprend. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation, si on a un homme qui doit interpréter déjà en son âme et conscience, il y a déjà une part de subjectivité. Si on en rajoute deux, ou trois, ou quatre, on rentre dans un imbroglio total où on pourra mettre les gens les plus compétents possibles avec les outils les plus formidables. On complexifiera la chose. Donc le VAR, on ne supprime pas, on n'interdit pas, simplement on le réduit à sa plus simple expression. Est-ce qu'il y a hors-jeu ou est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu ? Tout le reste, on arrête.
C'est Philippe qu'il faut arrêter, excusez-moi, mais vous allez à la moitié du raisonnement, vous dites ce qui arrange les lobbies qui soutiennent l'AVAR dont vous êtes, et
les
je suis effaré,
qui soutiennent
mais bien entendu, et dont vous êtes le complice, et un homme tel que vous que j'admire, je suis effaré, et franchement, vous dites, on met la goal line technologie, mais la goal line technologie, c'est la machine, donc c'est l'AVAR.
Ah, mais si vous êtes contre la machine.
Mais justement, c'est
le
ça que vous reproche, supprimer la machine. Vous avez accepté la machine, vous, Philippe Sanfourche, vous avez dit oui à la goal line technologie, qui était le prémisse de la VAR, qui était le prémisse de l'interruption du foot, et bientôt vous aurez la pub tous les quarts d'heure. C'est ça que vous voulez. Ce football vendu à la machine, vous n'auriez jamais dû l'accepter.
Bon,
c'est fini.
Revenons sur ce qui s'est passé hier soir.
Mais c'est une honte, mais c'est la VAR qui est une honte.
On ne parle pas de la main d'Icardi, on parle de la faute d'Icardi avant la main d'Icardi.
Mais le problème sur cette action précise...
Pas avant la main d'Icardi d'ailleurs, avant la main du défenseur.
Le problème sur cette action précisément... Ce n'est pas le VAR, la VAR ou qui vous voulez. Ce n'est pas la machine.
C'est les hommes.
C'est l'homme. Mais non, ce n'est pas l'utilisation, c'est l'homme. Bah, c'est-à-dire que la personne qui, dans le camion, je sais, ils ne sont pas dans un camion, a décidé qu'il fallait changer la décision de l'arbitre alors qu'il y avait faute avant d'Icardi, bah, soit elle est totalement incompétente, soit elle y a un intérêt à ce que l'arbitre se déjuge. C'est pas possible, en fait. C'est impensable. Des fois, on n'est pas d'accord. Un pénalty, une main, on n'est pas d'accord. Bon, très bien. Mais là, qui peut ne pas être d'accord? C'est impossible. Il n'y a qu'une personne, enfin, deux peut-être, qui était chargée du VAR et qui a trouvé ce coup de génie de dire qu'il n'y avait pas faute. Et l'arbitre, je lui en veux même pas. Visiblement, il a même pas vu. On lui a pas remontré l'action.
Ah non, mais attention, donc, attention, Sébastien. Les images on a entreaperçues et qui effectivement nous permettent de constater qu'il a vu la dernière action et pas l'action de départ.
Visiblement, c'est ce qu'il a vu.
Oui, non, mais il a vu que ça, peut-être.
Oui. Mais le problème, c'est le camion. Le problème, c'est ces gens-là qui arrivent à amener à prendre ces décisions. Il faut changer l'arbitrage français. Pardon,
l'arbitrage français
est nul. C'est un naufrage. Oui. Et ça fait 25 ans que ça dure. Donc, Gilles Verdez, aujourd'hui, il s'énerve contre la machine. Mais s'il n'y avait pas la machine, il s'énerverait contre les hommes.
Mais non, mais il faut lui
Il y a 25 ans, il s'énervait contre les hommes et contre l'arbitrage français.
Supprimons la machine.
Supprimons les machines.
Si vous avez quelqu'un dans une voiture qui ne sait pas la piloter, on lui retire son permis de conduire.
Non, mais changez les hommes. Changez les hommes.
Changez
l'arbitrage français. L'arbitrage français est noyauté par des guerres d'ego et de politique depuis des dizaines d'années.
C'est la réalité.
Et c'était pas mieux avant. Ça, c'est un problème qui vient s'ajouter au problème de la VAR.
À l'Euro 2021, tout le monde, ou presque, a considéré que le VAR avait plutôt été bien utilisé. Donc, c'est possible d'avancer. On ne reviendra pas en arrière. On peut discuter des heures. On ne reviendra pas en arrière. Moi, je pense aussi que c'était une erreur d'y aller. Avec le recul, c'était une erreur d'y aller. Maintenant qu'on y est allé, on ne reviendra pas en arrière. Donc il faut essayer de trouver les meilleures solutions.
Moi, je suis d'accord avec Sébastien sur le côté axe de progression majoritaire et principal. C'est l'utilisation qu'on en fait là, enfin en tout cas les hommes qui en font dans le quart. Parce que c'est ça la grosse problématique. On parle souvent du problème. Là hier, on parle de la main de Capel, la faute avant. On oublie aussi quand même que Paris Saint-Germain, il y avait un penalty en première mi-temps qui a pas été sifflé, notamment après consultation de la VAR, alors qu'il y avait penalty. Pareil en Ligue des Nations.
Consultation de la VAR, le jeu n'a pas été arrêté cette fois-ci.
Non,
c'est simplement à distance qu'on a estimé qu'il n'y avait pas penalty.
Oui,
sur
alors qu'il y avait penalty.
Non mais
d'accord. Alors après on peut multiplier aussi les occasions. On voit notamment Ligue des Nations, l'équipe de France qui joue contre la Belgique. Le but de Lukaku à la 88e minute. Le but est accepté. Utilisation de la VAR. Il y a pas but. Ça change complètement. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des choses à améliorer, ça c'est certain. Mais dire non, la VAR faut arrêter complètement. Moi je suis pas d'accord avec ça. Vous dites un fiasco. Pas du tout. Il y a quand même beaucoup de points qui sont positifs là-dedans. Après il y a l'utilisation qu'on en fait.
C'est plus qu'un fiasco pour Clermont. Ça devient une escroquerie. Hein.
Pour Clermont.
Ben oui.
Pour Angers, il y a eu
un pénalty au préalable.
En première mi-temps.
Refusé au Paris Saint-Germain.
Oui et non.
Bah si, pour le coup.
Le problème, c'est qu'on a un style de la suspicion durant 90 minutes.
Bah, bien sûr.
Puisque comme on sait qu'on a cet outil-là à disposition, on va disséquer toutes les images et toutes les équipes pourront trouver à la 14e minute, à l'autre bout du terrain, quand personne ne regardait, il y a eu un croc en jambe qui a déstabilisé un joueur.
Et puis, minute 12 après, il y a
exactement.
Eu un but.
Donc tout est possible, en fait. Tout devient possible avec le VAR.
Mais donc la machine n'a rien à faire dans le football, Philippe, quand vous dites tout est possible avec le ou la VAR, c'est qu'il faut la supprimer.
Sur des choses.
Non, mais il n'y a pas de chose simple. À partir du moment où cette machine nécessite des hommes derrière, ça nie déjà le principe de la machine autoritaire.
Non, puisque vous allez déjà plus vite que la musique, puisque dans le sommaire, on va tout à l'heure disserter sur les idées de M. Arsène Wenger, et que notamment, il y a, il nous l'a annoncé, le hors-jeu automatique.
On va en parler dans 3-4 minutes.
Le hors-jeu automatique. Donc là, on va même plus avoir à intervenir, l'arbitre, les hommes et la machine. Ce sera juste la machine qui devra être infaillible. Là, je suis d'accord.
On est d'accord
pour dire que le goal line, aujourd'hui, c'est infaillible.
Le hors-jeu, on est dans l'interprétation. La goal line, on n'est pas dans l'interprétation. Ça franchit ou ça franchit pas. Moi, je suis assez d'accord avec Gilles. Effectivement, on savait très bien qu'avec la goal line, allait venir la vidéo. Bientôt arriveront un match de football avec 4 cartons. Et quand on consultera la vidéo pour savoir s'il y a
des problèmes. Non, mais ça, c'est contre le progrès. Ça veut dire que on savait très bien que un jour, les avions allaient grès.
Un match de football en 4 cartons, c'est progrès pour vous.
Mais on a le droit d'être
sans vie. Il y a un siècle,
ça ne fallait pas. Mais moi, j'en veux pas de votre progrès. Si le progrès, c'est des arnaques à tous les matchs, c'est la machine qui supplante l'homme, j'en veux pas de votre progrès, moi. Je le dis au effort, je veux pas de votre progrès.
Je vous le dis, le football. La formidable veste que vous avez sur les épaules, c'est vous qui l'avez taillée, c'est vous qui avez tissé le fil. Il ne fallait pas de machine pour la faire. Comment ça se passe?
Excusez-moi, mais il y avait des vestes. Des dizaines d'années qui étaient faites par des gens qui savaient coudre, et j'espère que celle-ci
n'était pas taillée de manière
parfaite. En tout cas, j'espère qu'elle a pas. Là, vous êtes en train de dire que j'ai une veste faite par des machines, je ne sais où,
au prix qu'ils ont payé.
Je réfute totalement votre argumentaire.
Au sujet qui nous préoccupe. Vous le verrez, Philippe, je le maintiens. Le football, un match de football, un jour ou l'autre, on ne sera peut-être pas là pour le voir, et c'est bien dommage. Mais un match de football sera découpé en 4 cartons. Il y aura des publicités. Regardez!
Vous mélangez tout, on est dans le fantasme.
On pousse à l'extrême, Christian.
On est dans le fantasme.
Mais quand vous voyez Agnelli qui veut raccourcir la durée d'un match de football,
il n'y a pas de rapport entre le VAR et ça.
Mais si, parce que c'est le modernisme à outrance.
C'est du saucissonnage qui va devenir du football américain, où tout sera régi par des machines qui permettront, pendant que les machines exécutent, à des publicités de passer en permanence. C'est ça le football de demain.
C'est un sport différent. Mais oui, mais le football que l'on a connu et que l'on a aimé n'existe plus et n'existera plus. Ah. Donc ça c'est malheureusement c'est comme ça. Donc à un moment il faut essayer.
Mais
dans
il faut
tout
combattre cela.
Oui,
Sébastien.
Mais combattons. Mais je pense que sur ce terrain-là c'est terminé. Donc il faut combattre pour que les hommes soient meilleur et soit mieux choisi et qu'il ne soit pas dans des guerres politiques comme l'est l'arbitrage français depuis 35 ans.
Mais explique-moi Sébastien, en quoi la guerre politique effectivement qui anime nos arbitres depuis 30 ou 35 ans fait que Capel qui fait une main volontaire fait l'objet d'un pénalty transformé par Mbappé? Je ne comprends pas le raccourci.
Mais parce que les arbitres n'ont pas certaines compétences, oui, sont parfois considérés compétents pour arbitrer certains matchs alors qu'ils ne le sont pas. Parce que ce ne sont pas toujours les meilleurs qui sont mis en avant.
Ah, vous voulez dire qu'on met exprès des arbitres favorables au PSG dans le quart de la VAR et sur le terrain, c'est ça que vous voulez dire?
Non,
il y a de la corruption dans l'arbitrage, c'est intéressant, remarqué.
Pas du tout. Ah. Gilles, si vous voulez aller
non, je vous pose la question.
C'est votre problème, mais moi je n'irai pas. En l'occurrence, tout le monde sait que l'arbitrage français, encore une fois, est victime de ces guerres intestines depuis de nombreuses années, et la conséquence est toujours là, c'est tout. Certains arbitres qui seraient au VAR auraient presque intérêt que leurs copains se plantent. Donc on s'en sort plus de cette histoire.
Et là, pour le coup, c'était un jeune arbitre.
Oui, c'était son cinquième match en Ligue 1 et le premier au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain. Donc qu'il puisse y avoir une pression par rapport à ça, on peut l'entendre. Mais c'est vrai que le système, il est globalement à la déresponsabilisation des arbitres. C'est-à-dire que l'arbitre, on en parle de plus en plus, mais il est de moins en moins central puisqu'il ne prend plus les décisions, il n'ose plus les prendre, il a peur de les prendre.
Ouais.
Bon, faut-il supprimer...
La VAR, oui.
La VAR,
oui, bien sûr, plus que jamais.
Moi, si j'étais Dieu, je le supprimerais, mais bon.
Non.
Baptiste Després, non. Philippe Sansfourche, oui.
Je vous l'ai dit, on supprime la moitié de tout ce qui n'est pas binaire.
Oui, on a bien compris.
Tout ce qui est lié à l'interprétation doit rester le jugement de l'arbitre le seul homme sur le terrain.
Donc
qui
le
doit
hors-jeu n'est pas binaire. Et après la page de publicité, on va
si,
donc.
Ça doit l'être, l'hors-jeu. Donc... Ça doit être binaire.
Ah bon,
bah, on est hors-jeu ou on l'est pas?
Non.
C'est pas si simple.
Alors là, vous remettez les
balles. Moi, je vous parle de tout ce qui est lié au faux jeu. L'interprétation sur la faute.
Le hors-jeu n'est pas binaire. Et M. Wenger veut l'automatiser. On en parle après la page de publicité. C'est On fait le match, 18h47. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL. On refait le match. Éric Silvestro, Xavier Domergue,
RTL Foot.
Ah, Éric Silvestro, Xavier Domergue, plus Giovanni Castaldi, plus Baptiste Durieux, c'est à partir de 20h, RTL Foot, et jusqu'à
23h.
Si on leur rend l'antenne,
on va réfléchir.
Là, c'est une tentative de putsch, carrément. 18h51.
Qui est Borotra?
Non, je parlais des 4 mousquetaires de la grande histoire.
Ah oui, là on remonte. Moi je restais dans le carcan sportif.
Voilà, bas du casque. Voilà, on est là sur le tennis. Alors que là on parle de la littérature.
Vous savez que les 4 mousquetaires.
Ils étaient trois.
C'est
oui,
D'Artagnan qui a été.
Ah bon?
D'Artagnan était la pièce rapportée quand même. Athos,
Aramis et Portos.
Eh oui. À Clermont, comment ça se passe?
Très bien. On avance.
Guillaume Frisson à Clermont, le temps additionnel.
Oui, le temps additionnel, 92e minute. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel et un climat électrique à Clermont. Toujours 1-0 pour les Clermontois et les Lillois qui poussent, mais qui n'y arrivent pas et qui s'agacent. Il reste donc 2 petites minutes aux Clermontois pour essayer d'enrayer. Donc c'est 7 matchs sans défaite, sans 7 matchs de suite sans victoire, pardon. Les Clermontois tiennent le bon bout. Il leur reste 2 minutes à tenir face aux Lillois.
Et l'émission 100% interactive, on fait le match. Les messages, le compte Twitter @RTLFoot, Baptiste Durieux, peut-être sur le débat qui nous a animé concernant l'arbitrage vidéo.
Absolument, on débat depuis 24 heures d'ailleurs sur @RTLFoot. Damien nous dit à l'instant, ça en devient écœurant cette vidéo. La VAR est un outil sur le papier fabuleux et d'une simplicité folle pourtant. Des millions d'euros, des hommes, du personnel et des dispositifs techniques. Tout ça pour ne pas savoir s'en servir, ça c'est insupportable. Valentin nous dit que j'étais pour la VAR au début et plus ça va, plus je me dis que ça ne résout absolument rien, ça casse le rythme d'un match. En tant que spectateur, c'est frustrant. Et au final, il y a évidemment autant de polémiques sur l'arbitrage qu'avant. Laissons la VAR aux évidences mathématiques, supprimons-la pour l'interprétation philosophique. Message d'Alexandre qui nous dit la VAR serait la meilleure chose qui pouvait arriver au football si les arbitres avaient un cerveau qui fonctionne à tous les matchs. Et enfin, message de Quentin, rien contre le Paris Saint-Germain, rien contre la VAR en elle-même, mais quelque chose contre son utilisation hasardeuse, génératrice de frustration et d'inéquité. Supprimons-la, je préfère être en colère contre un humain et son interprétation plutôt qu'un humain et l'utilisation de sa machine.
C'est votre émission, vous continuez de nous rejoindre bien évidemment jusqu'à 20h, on fait le match. Voilà qui nous amène en tout cas à la seconde partie de notre discussion. Arsène Wenger est-il en roue libre? Le voilà qu'il nous propose, et qu'il annonce même, alors qu'il ajoute, c'est encore secret donc je ne peux pas vous en dire plus, qu'il nous propose le hors-jeu automatique pour le Mondial 2022. Alors, on peut avoir beaucoup d'admiration évidemment sur le passé sportif, sur les compétences, sur l'expérience d'Arsène Wenger. Là, on a pris toutes les précautions oratoires, mais là, c'est trop gros, franchement. Ben le hors-jeu automatique.
Et pourquoi pas? Moi, je vais rester dans ma logique que je vous ai développée tout à l'heure. C'est que je pense qu'aujourd'hui, en 2021, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la modélisation numérique, à mon avis, il y a des choses plus compliquées sur le plan scientifique que de déterminer si 4 ou 5 bonhommes sont sur une même ligne au moment où il y a un ballon qui part. Mais je pense que ça doit pouvoir se résoudre, encore une fois, de manière binaire, sans qu'il y ait de zone grise, avec une marge d'erreur de 0,001%. Ça doit être tout à fait possible aujourd'hui, en 2021. Si ça l'est, pourquoi pas?
Mais c'est impossible, Philippe, c'est impossible, ça ne l'est pas. Vous ne saurez jamais exactement à quelle nanoseconde le ballon est sorti des pieds du joueur. Donc il y aura des interprétations toujours sur à quel moment faut-il déclencher la ligne. Ensuite, il y aura des interprétations sur est-ce que le bras était devant la tête ou est-ce qu'il y avait un mouvement du joueur qui faisait que finalement il n'était pas hors-jeu. Donc on en reviendra au débat de tout à l'heure. C'est-à-dire que la machine ne peut pas avoir raison. C'est pas une mathématique, le football. Ou alors, et c'est là où c'est dangereux, votre argumentaire, ou alors vous êtes comme Wenger pour un football déshumanisé, la machine, la VAR, parce que c'est l'argent, parce qu'on sait très bien qu'il y a des enjeux financiers énormes, et ça me déçoit encore une fois de vous.
Vous voyez toujours le mal derrière.
Mais que Wenger soit maintenant vendu au lobby qui font de l'argent à coquiner à la FIFA,
partout.
Mais pas vous, Philippe, vous qui êtes une sorte de parangon de vertu, et là vous sombrez dans les affres du tout football dédié à l'argent.
En général, c'est toi aujourd'hui.
Avant de poursuivre, clairement, c'est terminé, Guillaume Frisson.
Oui, c'est terminé. Un grand ouf de soulagement pour les Clermontois combatifs et solidaires. Auxerre qui s'impose 1-0 face aux Lillois grâce à un but de Vital Nsimba, une frappe plein axe à 25 mètres qui a trompé la vigilance du portier lillois. Les Clermontois renouent avec le succès, ils vont grappiller des places, ils vont grimper à la 11e place du classement de Ligue 1, se donner un peu d'air. Victoire des Clermontois donc face aux champions de France en titre Lille, 1-0.
Débrief et réaction dans RTL Foot à partir de 20h bien évidemment. Sébastien Tarrago.
Mais non, mais je suis embêté parce que moi, ça ne m'intéresse plus en fait.
Le débat nous intéresse.
C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de cela. Et ça, pour moi, alors finalement, c'est le grand échec de la VAR, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de ça. On parle encore plus du VAR que l'on parlait des arbitres et de leur incompétence.
Tu crois
parfois,
ça?
Ah oui, ça crée plus de rancœur, de polémique.
C'est sans fin, c'est sans fin. Et moi, j'en ai marre. J'ai envie qu'on parle un peu de foot, qu'on parle un peu de jeu, j'ai envie qu'on parle un peu des hommes. Mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, on ne parle que de ça. Il n'y a pas autre chose à dire que de ce match d'hier.
Bah non.
Il y a tellement de choses à dire de ce match.
Bah non. Vous vous êtes amusé avec le match d'hier?
Mais c'est pas la question.
Bon, bah alors, on peut parlons du match d'hier.
On peut s'amuser à avoir des choses à dire.
Mais on peut, c'est
parler,
quand même le fait
de, on peut parler du projet de jeu de Pochettino. Hein. On peut parler de plein de choses. Mais on se retrouve avec quoi? C'est pas une critique, je comprends. Puisque tout le monde ne parle plus que de cela. Et on ne parle plus que de cela à cause de quoi? À cause du VAR. Effectivement. Bon, non, et ça, là, c'est le grand échec de cette soi-disant avancée.
L'intelligence artificielle, Baptiste Després, selon Arsène Wenger, pour juger d'un hors-jeu ou pas, pour ou pas?
En tout cas, il est ultra convaincu là-dessus. Ça, c'est sûr que quand il en parle, ça fait déjà des semaines ou des mois qu'il vend ce projet-là, en plus de derrière l'histoire de la Coupe
du Monde.
J'aime
bien le terme
«
vend ».
Mais il
vend,
vend.
C'est ça,
il vend. C'est le poisson pilote de la FIFA. On lance des trucs
ça,
comme
ça. Il faut l'inviter, il faut lui poser la question. Ça, pour le coup, il répondra. Mais c'est vrai qu'il ne parle que de ça.
Il a donné plus d'interviews en un mois que.
Ça fait. Oui, oui. Effectivement, il occupe bien la scène médiatique. Après, sur l'histoire de hors-jeu, il y a aussi une question qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, je pense que pour le grand public, plus personne ne sait comment elle fonctionne, cette règle du hors-jeu. On l'a vu avec l'histoire d'Mbappé, où là, l'UEFA va sans doute réécrire la règle parce que personne n'a rien compris. Même nous, on était au stade ce soir-là, en Italie, et honnêtement, entre confrères, pendant un quart d'heure, on s'est posé la question, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, on a revu l'image, etc. On était incapable de savoir.
Après, c'est parce qu'on ne connaissait pas le règlement. L'interprétation de cette règle est d'une stupidité sans nom.
Bien sûr.
Et l'interprétation de cette règle met en désaccord les arbitres entre eux.
On a quand même tous joué un peu au foot, à un tout petit niveau.
Moi, je trouve ça.
Si vous mettez votre adversaire en jeu volontairement, avec une passe en retrait mal ajustée au gardien de but et que l'attaquant adverse en profite et qu'il était hors jeu, là, je veux dire, il y a une remise volontaire.
Mais ça a changé. La règle a changé.
La règle change tout le temps, puisque maintenant l'UEFA veut la modifier de nouveau.
Je suis d'accord avec vous, mais là, en l'occurrence,
dès lors que vous partez sur la notion de volontaire et d'involontaire, vous êtes à nouveau dans la zone grise.
Bon, musique maestro, 18h58. on va changer de sujet, la demande de Sébastien Tarrago.
Non,
je crains qu'il ne quitte plus le studio. On va parler de Neymar. Ça vous va, Neymar?
Neymar, c'est bien. C'est
les états d'âme de Neymar.
Mais très
Est-ce
bien.
Est-ce que c'est le début de la fin?
Ça, c'est encore une autre question.
Après les informations de 19h, dans l'immédiat publicité, c'est on fait le match.
RTL, on refait le match. Fort.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, avec Baptiste Després, Gilles Verdet, Sébastien Tarrago, avec Baptiste Durieux qui scrute également les réseaux sociaux et notamment le compte RTL Foot. Baptiste, pour les messages, s'il y en a, en rappelant Baptiste que le match de 17h a vu la victoire de Clermont sur Lille tout de même, 1-0. Pas mal pour les Clermontois. Décryptage, réaction à partir de 20h dans RTL Foot. Les messages, Baptiste.
Sur Arsène Wenger, ils sont nombreux également. Alex nous dit que les arbitres galèrent déjà avec des ralentis sur des actions limpides. Alors Wenger attendra avant de révolutionner le football encore une fois, qu'on maîtrise déjà la règle du hors-jeu actuel, parce que là, ça devient pénible. Et message de Dimitri qui nous dit que c'est pas un règlement, c'est de l'expérimentation permanente. À croire que ça les amuse, le football est un jeu, mais on ne joue pas avec le football.
Mais je trouve que nos auditeurs sont particulièrement raisonnables.
Rétrograde aussi.
Qui a dit ça?
Alors ça. Mais oui, c'est l'homme machine. C'est l'homme machine maintenant. C'est l'homme data. C'est incroyable ça. Les auditeurs sont très pertinents.
Surtout double face. C'est-à-dire qu'il s'insurge contre l'arbitrage vidéo, mais il veut de la vidéo.
Le monde n'est pas simple. Il faut parfois essayer de trouver des nuances.
Bon,
il y en a peu dans ce studio, j'ai l'impression.
La Ligue 2, peut-être, avec Baptiste Durieux, coup d'envoi des matchs depuis combien de temps? 5-6 minutes?
Absolument, depuis 5 minutes. Il y a un seul but pour l'instant qui est inscrit par Le Havre face à Caen. On rappelle également que Toulouse, leader de cette Ligue 2, s'est imposé 6-0 face à Auxerre. Absolument, je vous rappelle les autres affiches. Que vire Rouen, Niort, Pau, Paris FC, Caen, Le Havre, Rodez, Sochaux, Nancy, Guingamp, Dijon, Amiens, Bastia, Grenoble et enfin Valenciennes, Dunkerque.
Merci Baptiste. Et puis également dans RTL Foot, il y aura le club de l'Europe, mais je vous donne quand même le résultat de Leipzig, prochain adversaire du PSG, soirée spéciale. Ce sera mardi sur l'antenne de RTL. Un but partout pour un but partout donc pour personne, mais un but partout entre Fribourg
contre Fribourg. On n'a pas appris grand chose de nouveau sur cette rencontre. On a vu que Leipzig était toujours une équipe joueuse qui avait des capacités offensives, mais alors en revanche derrière c'est porte ouverte hein. Si nos amis Messi, Neymar, Mbappé sont dans un bon soir, ça devrait quand même pas être trop compliqué pour de marquer des buts.
Et puis l'un des prochains candidats au Ballon d'Or, Haaland, a marqué deux fois pour Dortmund, qui a battu Mayence sur le score de 3-1.
Il est candidat cette année,
Haaland. Il fait partie des nommés, comme on dit, non ?
Ah oui, ils sont 30.
Bah oui, d'accord.
Mais il n'est pas candidat, de...
Il n'est pas candidat ?
Non.
Non, bah, il fait partie des nommés.
Ça, c'est sûr.
Alors, l'arbitrage vidéo, faut-il supprimer cette escroquerie ? Le débat était vraiment partagé.
C'est pas jugé parti du tout.
Monsieur,
c'était bien présenté.
Monsieur
Wenger, la question est très bien posée.
Monsieur Wenger, est-il en roue libre ?
J'ai eu peur. Du qualificatif.
J'ai eu peur, oui.
Mais vous imaginez quand même un arbitrage avec la machine, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un peu plus de ventre, je parle pas de Neymar, c'est-à-dire qu'il peut être perdu par un hors-jeu ou que le flottant flotte davantage, ou le maillot, etc. Et comment avec l'intelligence artificielle,
impossible,
vous allez pouvoir juger impossible. Ce genre de situation.
Vous avez le mot, Christian.
Il faut toujours oser. Neymar. Alors Neymar. Petite phrase sur une plateforme cette semaine. Interrogé sur le Mondial 2022, la voix un peu nouée, un petit peu d'émotion. Est-ce que c'était surjoué ? Ça, je vous laisse juger. Il estime que la Coupe du Monde 2022 Qatar, ce sera la dernière pour lui. Je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite, dit-il. Donc je veux tout donner pour bien finir et la gagner avec le Brésil. Question Neymar. Est-ce le début de la fin ?
C'est pas le début de la fin parce que c'est quelqu'un de très émotionnel et qui réagit de manière un peu instinctive souvent et qui va changer aussi d'avis de temps en temps. Donc il est parfois bien, il est parfois mal et ça se voit avec lui. Il y en a qui savent cacher leurs émotions, lui pas trop. Vous parliez d'une émotion éventuellement feinte, je crois pas. Il est comme ça, on le voit bien. D'ailleurs. Il est un peu, malheureusement, un peu enfantin parfois, hein, dans son rapport à ce jeu, alors qu'il pèse des millions et des millions. Voilà, et c'est le problème. C'est le problème avec lui. Je suis quand même inquiet pour le Paris Saint-Germain, bien
alors,
sûr.
Voilà,
parce que il est sous contrat jusqu'en 2025. Il peut activer, je crois, une année supplémentaire jusqu'en 2026, en gros. Il est à 30 millions d'euros par an, même si le salaire va baisser un tout petit peu au fil des années. C'est bien sûr un gros problème pour le Paris Saint-Germain, évidemment, potentiellement. Vu son hygiène de vie, il a fait un choix, ce garçon. Moi, je respecte les choix de chacun. Il aurait pu faire une carrière beaucoup plus grande. Il a fait le choix de profiter aussi de la vie en parallèle. Bon, très bien. Mais a priori, il va
c'est
y avoir
grave,
des conséquences.
Il y en a un ou deux dans une équipe. Quand il commence à en avoir 5 ou 6,
c'est un problème. Mais il va y avoir des conséquences sur son corps et on le voit. Malheureusement.
Alors il a fait un bon match cette semaine contre l'Uruguay, 2 passes décisives et 1 but, mais tout cela, ça
vient
bien.
Vous passez assez vite sous silence quand même.
De quoi ?
Mais c'est pas anodin.
De quoi ?
Par rapport à ce que vient d'expliquer Sébastien, c'est qu'il est capable d'avoir justement comme ça des downs mentaux.
Je te parle de l'Uruguay.
Et derrière, la réaction, elle est quand même assez impressionnante sur le terrain parce que son match, il est plein et il est beau.
Et juste avant l'Uruguay, son match contre la Colombie, il est laid.
Oui, tout à fait. Mais ça veut dire que le fait d'avoir fait cette sortie n'induit pas que derrière, il est mentalement sorti du jeu.
Au contraire, parce que les quelques messages sympathiques qu'il reçoit à la suite de ces déclarations lui font du bien.
Je ne sais pas si Leonardo lui a passé un coup de fil sympathique, hein, parce que cette déclaration, il a fait quand même en avril.
Je ne suis pas sûr qu'il soit très perturbé par ce que pense Leonardo.
Non, d'accord. Neymar. Tu parlais d'un côté un peu enfantin quand même de Neymar. Tu as peut-être raison sur Leonardo, mais quand tu fais cette déclaration, sachant que ça a été enregistré en avril et que deux mois après, tu prolonges ton contrat pour 3 ans avec le Paris Saint-Germain, c'est plus que de l'enfantillage.
Ah non, là, ça s'appelle du business, c'est encore autre chose.
Oui, oui, ça s'appelle de l'irresponsabilité, Gilbert.
Non, mais la déclaration, elle est corrélée quand même à ce qui se passe au Brésil, en équipe nationale. Et c'est le début de la fin avec le Brésil, c'est-à-dire que ce sera son dernier mondial. Il aura 30 ans et c'est fini. Neymar, il est pro depuis 2009. Il a joué 659 matchs. Son corps est épuisé, son esprit est épuisé. Il en a marre de la pression. Donc, il finira en roue libre avec le PSG. Mais oui, c'est sa dernière, à mon avis, encore une saison et demie au sommet et c'est fini. Après le Qatar 2022, pour Neymar, c'est une sorte de retraite internationale.
Neymar,
il est quand même en chute libre, les gars. Arrêtez.
Mais ça, c'est autre chose.
Non, c'est pas du tout autre chose. Comme il n'aimera pas décliner au point où n'est plus que remplaçant, il arrêtera avant. Voilà.
Baptiste Després.
Moi, la question, je rejoins Sébastien, c'est sur le côté hygiène de vie, le côté motivation aussi au plus haut niveau pour les prochaines années. Parce que qu'il arrête avec le Brésil ou pas, ça, on n'en sait rien. Parce que Neymar, il est quand même capable, comme le dit Sébastien, sur le côté enfantin, de dire quand il est au Paris Saint-Germain que son meilleur souvenir, c'est la remontada, dans un autre périmètre. Donc, c'est quand même des choses où il est capable de dire tout et son contraire. Mais sur son hygiène de vie, moi, c'est là où j'ai le plus de crainte, parce qu'aujourd'hui, il a quand même le corps qui est de plus en plus marqué, que ses préparations sont de plus en plus difficiles, sont de plus en plus écourtées. Il a de plus en plus de blessures. Il est capable, comme le dit Philippe, de faire des fulgurances, de remporter un match à lui tout seul, parce que c'est un génie. C'est un génie du football. Mais pour moi, je trouve qu'on peut le comparer à un Ronaldinho, toute proportion gardée, parce qu'il a un talent extraordinaire, mais il ne fera pas la carrière qu'il aurait dû faire. Parce que, oui, effectivement, il adore.
Encore plus,
le seul souci, c'est que Ronaldinho, il a tiré la sympathie. Parce qu'il était solaire. Et Neymar, c'est différent. Neymar n'attire pas cette sympathie.
Non, Ronaldinho n'attirait pas la sympathie de ses entraîneurs. Hein. Ronaldinho était toujours mis au banc pour ses frasques nocturnes et Neymar n'a jamais été aussi loin dans des frasques nocturnes que Ronaldinho.
Ah bon, c'est impossible. Neymar,
aller aussi loin,
ce n'est pas possible.
Voilà, donc Ronaldinho, il a brûlé tout.
Quand au FC Barcelone, pendant quelques années, il faisait ce qu'il faisait sur le terrain, ses entraîneurs l'aimaient beaucoup quand même.
Alors comment on peut qualifier ?
C'est juste que quand sur le terrain, ça n'a plus été aussi extraordinaire qu'il a eu des problèmes. Effectivement, il arrivait parfois et on le retrouvait sur les bancs devant le centre d'entraînement. Il était en train de dormir sur un banc. Il commençait sa nuit. C'était un problème. Bon, Neymar, on n'en est pas là.
Neymar, comment ça se qualifie ? Alors, c'est un coup de blues, c'est un phénomène de lassitude.
Non, pour moi, c'est une lucidité sur la fin programmée de Neymar au plus haut niveau, qui est dans 18 mois maximum.
Ça ne peut pas arranger le Paris Saint-Germain, finalement, de voir Neymar désormais décliner la sélection et de.
Mais il dit ça aujourd'hui, il dira le contraire le lendemain. Je pense que quand on évoque son côté enfantin, c'est Neymar. Il aura 15 ans dans sa tête jusqu'au bout. Il faut le prendre comme tel. On aime ou on n'aime pas, mais à partir du moment où il est là, il faut le prendre comme
ça. Et Philippe, puis, moi, je trouve ça quand même... veux pas être démago, Philippe, mais comme tel, avec l'argent qu'il gagne, avec les sponsors qu'il draine.
Oui, mais ça, ce sont les gens qui lui ont donné cet argent qui en sont responsables. C'est pas lui.
Et avec le rythme de compétition qu'il fait, c'était quoi la saison dernière ? C'était un match sur deux.
Non, mais il est
à un match sur deux. Il arrive au PSG où c'est quasiment.
Mais le bilan sportif, il est pas bon. Je suis le premier à en convenir.
Il y a que ça qui compte.
Simplement,
Non, mais lui, il mène la vie qu'il a envie de mener. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, quand ils lui ont donné 4 ans de prolongation de contrat, ils savent qui est Neymar. Ils le savent. Ils savent ce qu'il fait la nuit. Ils savent à quelle heure il se couche, ils savent ce qu'il boit.
Donc c'est la gestion du PSG qui est mise en cause par Sébastien Tarrago.
Non mais je ne sais pas si le Paris Saint-Germain a eu tort de le prolonger, mais en tout cas, quand ils ont décidé de le prolonger, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils sont surpris de qui est Neymar et de ce qu'il fait de sa vie. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. S'ils ne le savent pas, alors là encore, on peut parler d'incompétence, qu'on fera un lot avec les arbitres français.
Philippe, vous parliez de l'avenir de Neymar. La Coupe du Monde, là, il aura 30 ans. Il va pas faire une autre Coupe du Monde à 33 ou 34 ans. C'est impossible. Son corps ne tiendra pas. Donc, il va arrêter la sélection après. Il va pas refaire une 27e Copa América. Vous voyez ce que je veux dire? Il fera peut-être les Jeux Olympiques.
La sélection lui a apporté quand même de grandes émotions, à la fois négatives et positives. Je pense que ça reste quand même ancré en lui.
Oui.
Il a, quoi qu'on en dise, évidemment, pas le palmarès, il l'aura jamais, ni l'aura de Pelé, mais en termes de chiffres, il commence à se rapprocher très sérieusement des chiffres de Pelé en sélection, que ce soit en nombre de sélections ou nombre de buts. Donc ça peut quand même aussi être un moteur.
Il y a 12 ou 13 buts du record.
Non mais d'accord, mais à un moment, Philippe, stop, avec les stats, pas toi.
Ah mais moi je ne cautionne pas, je dis simplement que ça fait partie.
Pelé, c'est 3 Coupes du Monde.
Mais bien entendu,
il en veut une, c'est ce que vous voulez dire, Philippe aussi.
Simplement, je pense que parmi ses rêves de gosse qui ne sont pas accomplis.
Oui, d'accord. Alors,
en 62, il l'a gagné. Non, il l'a gagné. En 62, il joue quasiment pas.
On compare pas Pelé.
Il est dans le groupe.
Je ne le compare pas. Je dis simplement qu'il y a des ressorts psychologiques qui peuvent être forts pour le faire continuer. Bon. Et que ça en fait partie.
Il vous aura pas échappé, donc Neymar jouait les matchs éliminatoires du prochain mondial en Amérique du Sud.
Oui.
Et que pas mal de joueurs africains vont disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes avec les clubs de Ligue 1. On en parle après la pub.
RTL.
On refait le match. Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
La suite d'On fait le match. Je vous rappelle le résultat de la rencontre de 17h. La victoire de Clermont sur Lille, 1-0. Réaction, décryptage, débrief à 20h dans RTL Foot. Les messages, le compte @RTL Foot, Baptiste Durieux.
Sur Neymar, ils sont nombreux également. Ludo nous dit: Neymar estime bien, fort mentalement. De toute façon, il ne l'a jamais été. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. La question, c'est sera-t-il aussi fort physiquement? Parce que là aussi, la question se pose. Et il ne pourra peut-être pas continuer, qu'il le veuille ou non. Et message de Pierre: j'ai arrêté d'attendre et d'espérer quoi que ce soit concernant Neymar. Je resterai évidemment amoureux de ce joueur pour ses fulgurances, ses inspirations fantastiques par séquence, ses matchs d'exception qui se comptent certes sur les doigts d'une main. Mais non, il sera jamais ballon d'or, jamais fiable, jamais stable et jamais régulier sur une saison complète. Et c'est comme ça.
Et vous continuez de nous rejoindre sur le compte @RTLFoot, bien évidemment. Merci Baptiste. La Ligue 2, une vingtaine de minutes.
20 minutes de jeu, absolument Christian. Dunkerque mène 1-0 sur la pelouse de Valenciennes, 0-0 entre Bastia et Grenoble, 0-0 entre Dijon et Amiens. Guingamp mène 1-0 sur la pelouse de Nancy, 0-0 entre Rodez et Sochaux. Caen est mené par Le Havre sur le score d'un but à 0, 0-0 entre Pau et le Paris FC. Et Niort qui mène 1-0 sur la pelouse de Quevilly-Rouen.
Merci Baptiste. Prochain point Ligue 2 dans une dizaine de minutes. On a parlé du spleen de Neymar, une autre forme de spleen qu'on aurait pu évoquer d'ailleurs, celui de Sergio Ramos. Hein. C'est l'Arlésienne totale, le défenseur du
Paris. Mais après, tout le monde sait que si le Real Madrid ne l'a pas prolongé, c'est qu'il y a une raison.
Ah.
Et il y avait des doutes. Il y avait des doutes sur son état de santé. Il a joué combien? 2 matchs en 2021? Bon.
Non, 7, je crois. Enfin bon, rien.
Je crois pas que ce soit 7.
Non,
enfin
si
bon.
Crois, bah, si,
en tout cas, moins de 10 matchs. Hein. C'est pas grave, on va pas se bagarrer là-dessus. Et tout le monde le sait. Donc, il y a un vrai risque qui a été pris. Le Real Madrid n'était pas prêt à lui donner 15 millions d'euros par saison avec ce risque-là. Lui, il voulait aller jouer l'Euro 2021. Luis Enrique a dit non, c'est gentil, mais tu vas rester à la maison. Visiblement, il a été bien inspiré puisque depuis, il a toujours pas rejoué au football. Donc c'est un vrai souci. Il y a eu une prise de risque. Alors le fameux transfert gratuit, oui, ok, mais il y a des primes déjà et puis en plus il y a des salaires très imposants.
C'est ce que je disais il y a 2-3 semaines. Non, on fait le match, mais on avait repris violemment. Effectivement, il n'y avait pas de transfert, mais il y a quand même un salaire à assumer. Pour l'instant,
Mais sur ce point, on comprend pas la politique du PSG, parce qu'un an avant, il y a Thiago Silva qui a quasiment le même âge que Ramos. Silva a gagné la Ligue des Champions, Silva enchaîne les matchs, il est titulaire à chaque fois. Là, Sergio Ramos joue pas un match. On comprend pas vraiment la politique du club sur ce point-là.
C'est une politique d'image, tout simplement.
On voit l'image, mais pour le coup, ça reste du foot quand même.
Évidemment, maintenant, une fois que Lionel Messi est arrivé, ça paraît moins fulgurant, l'arrivée de Ramos. Mais souvenez-vous, quand ça a été annoncé, on parlait quand même du meilleur défenseur des 30 dernières années qui signe au Paris Saint-Germain. Voilà.
Vous avez dit que Philippe Sanfourche avait été commis d'office pour le Paris Saint-Germain ce soir. Je plaisante.
Moi, je vous explique la logique de fonctionnement.
Bien sûr,
je ne la justifie pas.
Mais je plaisante. Non, Gilles Verdez. Terminé. Sergio Ramos, Neymar, le PSG, terminé. Il y a un épisode, moi, qui m'intéresse et qui va vous intéresser. C'est le rapport, les relations entre les clubs français et les internationaux africains à l'aune de ce qui s'est passé cette semaine avec Andy Delors qui a acquis, il y a quelques temps de cela, la nationalité algérienne, qui a joué pour l'Algérie et qui a désormais décidé de décliner pour une saison et donc de ne pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Colère du sélectionneur Belmadi, qui a joué au PSG, qui a joué à Marseille, on s'en souvient, je crois qu'il a terminé sa carrière à Valenciennes également, Belmadi.
Qatar, je crois.
Et au Qatar aussi. Et donc...
Il a débuté sa carrière d'entraîneur au Qatar.
Belmadi en veut beaucoup à l'OGC Nice, à ses dirigeants, aux proches également, et c'est pas innocent de dire les proches d'Andy Delors, en disant que c'était absolument pas normal de soustraire Andy Delors de la sélection algérienne. Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Scandaleux.
Déjà. Les clubs de Ligue 1 manquent-ils de respect, Gilles Verdez?
Bien sûr. C'est de la condescendance, voire du néocolonialisme. En fait, ils se comportent comme si les joueurs qui disputaient une compétition comme la CAN allaient disputer une vague compétition peu importante. Il faut rappeler que déjà, réglementairement, le sélectionneur algérien que je soutiens totalement, parce que ce que fait Delors est honteux, et ce que fait Nice est abject, mais le sélectionneur algérien, il aurait dû convoquer Delors, qui, comme ça, n'aurait pas pu pendant cette période, jouer pour son club. Déjà, les sélectionneurs devraient aller au bout de la logique, puisque sinon, vous êtes rayé des cadres et vous n'avez pas le droit de jouer. Donc, il aurait dû aller jusqu'au bout. Mais comme il a voulu, et c'est ce que je lui reconnais, avoir une discussion d'homme à homme avec le joueur, maintenant, il ne le convoquera pas et Delors pourra jouer avec son club. Mais c'est honteux, il ne devrait pas jouer. Et Nice, là, se comporte vraiment d'une manière honteuse. C'est pas le seul club, il y a plein de clubs qui disent à leurs joueurs « on te paye, n'y va pas ». Pour la CAN, pour des matchs de sélection, que ce soit en France, en Angleterre. Et ça, on ne le ferait pas avec un autre continent que l'Afrique.
Sébastien Tarrago.
Le problème de base, c'est que cette compétition a lieu en janvier.
Mais non, c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème.
Mais non, a eu lieu en juin, évidemment, les choses étaient différentes. Et comme elle a lieu en janvier, ce qui est évidemment un gros problème, puisqu'il y a des matchs de championnat en même temps, les clubs se comportent de manière scandaleuse, effectivement, et essayent d'obliger les joueurs, parfois, à ne pas aller en sélection. Donc c'est un énorme souci, et les joueurs sont pris en tenaille. Pour ce qui est du cas d'Andy Delors, c'est quand même très étonnant et scandaleux d'assister à la réaction de Christophe Galtier suite aux propos de Jamel Belmadi. Parce que ça, pour le coup, là, on est vraiment dans le mépris absolu. C'est-à-dire que Christophe Galtier, il trouve que Jamel Belmadi aurait dû se taire et n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit.
Et qu'il n'a pas de leçon à lui donner.
Mais est-ce qu'il se rend compte de ce que représente une sélection en Afrique, en Algérie ? Ça, c'est une honte absolue. Encore heureux que Jamel Belmadi a le droit de s'exprimer et a le droit de dire qu'il est choqué par ce que fait Andy Delors. Andy Delors, en plus, il dit non, moi, j'arrête pas la sélection, c'est juste que je la mets entre parenthèses pendant un an. Après, éventuellement, pour la Coupe du Monde 2022, je suis disponible. Mais c'est une vaste blague. Et on en revient toujours, depuis que Andy Delors a changé d'agent et qu'il travaille notamment avec le fils de Christophe Galtier, voilà. Tout est absolument scandaleux dans ce dossier.
C'est pour ça que je parlais de l'entourage.
Et personne ne dit rien.
Et au-delà, ben on va le dire, au-delà de l'aspect...
Ça commence à...
Personne ne dit rien. Il a changé d'agent pour aller vers lui au mois de juin. Alors, tout le monde savait que Christophe Galtier allait signer à Nice. Comme par hasard, il signe à Nice. C'est une honte. Alors, et Christophe Galtier, qui est par ailleurs un très bon technicien et qui a sans doute plein de qualités, mais il se comporte de manière scandaleuse.
Alors, il faut que la parole circule, mais on va devoir tourner une page de publicité et on va parler de ce sujet. J'avais prévu de parler d'équipe de France à 19h30, mais on va parler également de ce sujet. Mais puisque vous mettez ce sujet sur la table, effectivement, et c'est pour ça que je parlais de l'entourage également des dirigeants de l'OGC Nice, Galtier, l'entraîneur, Fournier, le directeur général, c'est qu'effectivement, Galtier a mal pris les critiques de Belmadi qui visaient l'entourage des dirigeants de l'OGC Nice. Et qui visait donc le fils.
On l'a connu plus éloquent, d'ailleurs, Galtier.
Qui est l'agent d'Andy Delors. On en reparle après la page de publicité.
RTL.
On refait le match.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
La suite d'On fait le match avec Philippe Sanfourche, Baptiste Després, Gilles Verdet, Sébastien Tarrago et Baptiste Durieux qui relaient tous vos messages sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte @RTLFoot, Baptiste.
Et sur Andy Delors, Damien nous dit de toute façon, les entraîneurs ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, leur confort, leurs petits intérêts. Évidemment que Galtier s'en fiche de la CAN jusqu'à ce qu'il devienne lui-même sélectionneur de l'Algérie. C'est l'histoire du foot. Message de Simon, Andy Delors n'a pas conscience qu'en faisant ça, il ne jouera pas la CAN, certes, mais peut-être plus jamais aucun match de football avec l'Algérie. Déçu d'un mec comme Delors que j'estimais beaucoup et qui, surtout avec son expérience, en plus, est tout à fait capable de se concentrer sur Nice tout en jouant la Coupe d'Afrique des Nations.
Et on passe à la Ligue 2, Baptiste.
Un partout entre Caen et Le Havre, on joue depuis une demi-heure de jeu. 0-0 entre Bastia et Grenoble, 0-0 entre Dijon et Amiens, Guingamp qui mène toujours 1-0 face à Nancy, 0-0 entre Pau et le Paris FC, Niort qui mène désormais 2-0 sur la pelouse de Quevilly-Rouen, 0-0 entre Rodez et Sochaux, et Dunkerque mène 1-0 face à Valenciennes. Toulouse, on le rappelle, s'est imposé cet après-midi 6-0 face à Auxerre.
Merci Baptiste Durieux. Alors, le sujet sur les... polémique à venir, de mon point de vue, concernant les joueurs qui vont devoir aller disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Il serait intéressant d'ailleurs, pour l'instant on n'a pas les sélections précises, de lister très précisément tous les clubs concernés, mais tous les clubs de Ligue 1 sont concernés. Tous. Pas un n'est pas concerné par, au moins par un joueur. Et si moi, je me suis amusé cet après-midi à faire une petite liste. Au PSG, il y a le Marocain Hakimi. À Clermont, il y a le Guinéen Bayo. À Lorient, il y a le Nigérian Mofi. À Marseille, il y a le Sénégalais Dieng. Et on parlait de Nice avec Delors, il y a Attal et Boudaoui également pour l'Algérie. Donc attention aux polémiques à venir et aux bras de fer. Cela dit, Gilles Verdez et Sébastien Tarrago nous parlaient également, échangeaient sur l'idée que la CAN n'était plus en juin, mais au mois de janvier. Et puis c'est vrai aussi qu'avec le Covid et avec des calendriers extrêmement resserrés, les employeurs pensent aussi à leurs propres intérêts.
Oui, mais bon, on peut pas. À ce moment-là, on a réduit à la réflexion à ça, parce que déjà historiquement, qu'il y ait beaucoup de joueurs africains et concernés par la sélection dans le championnat de France, c'est pas une découverte. C'est historique.
Et, à Saint-Etienne, il y en a une demi-douzaine. Hein.
Ensuite, lorsque vous construisez votre effectif, ne pas prendre en considération en amont ces choses-là, ce serait irresponsable. Donc, ça veut dire que c'est pensé et que c'est assumé. Après, moi, je prendrais quand même des gants et des pincettes sur cette notion de non-respect de la sélection du fait qu'elle serait africaine plutôt que autre.
Ah bah t'imagines Messi imposer à Messi de ne pas aller
en Amérique du Sud. Quand on travaille sur l'équipe de France, ces questions, elles reviennent en permanence. C'est-à-dire que même l'équipe de France, championne du monde, qui est censée être sur le toit du monde et respectée par tout le monde, il y a en permanence des tiraillements, et Didier Deschamps et son staff sont obligés de se battre avec tous les clubs européens, qu'ils soient français ou allemands ou anglais, parce que dès lors qu'il y a un petit bobo, quelque chose...
Mais qui n'a pas le même problème qu'avec Andy Delors.
Non, mais la philosophie est la même. C'est-à-dire que les clubs, basiquement, sont là pour défendre leurs intérêts, quelle que soit la sélection qui est en face, qu'elle soit africaine, française, allemande ou anglaise, peu importe. Si on peut garder son joueur, on garde son joueur.
Qu'il y ait des luttes d'influence, très bien. Mais encore une fois, on n'en est pas avec...
Non, parce qu'il y a des procès d'intention, moi, je me méfie quand même. C'est-à-dire que je trouve que l'attitude d'un club comme Nice aujourd'hui, parce que, manifestement, Mehdi fait référence aussi à ses confidences avec Islam Slimani qui pouvait également aller à Nice. Bon, on n'était pas là, on ne le saura jamais, mais on a quand même le sentiment qu'il y a quand même une ligne directrice dans la politique niçoise qui était plutôt de dire à leurs joueurs ou leurs potentiels joueurs que c'était mieux de ne pas aller en sélection. Ce n'est pas les seuls, ce n'est pas les premiers et ce n'est pas les seuls. Mais parce que ce serait une sélection africaine, là, je trouve qu'on franchit un pas que, en tout cas, moi, je franchirais pas.
C'est sans doute plus facile de faire passer la pilule à Andy Delors, de ne pas venir pendant une saison et de ne pas participer à la finition,
plutôt qu'à
Dolberg, que de le faire à Neymar ou de le faire à Messi.
C'est surtout qu'Andy Delors, il joue même pas en Algérie. Donc, lui, ça le dérange pas, en fait, de pas y aller.
C'est plutôt ça, c'est qu'il y a une facilité par rapport à ça, oui.
Bon, on a tout dit sur le sujet polémique qu'on va suivre.
Hein, oui, il y en a plein. Vous avez cité des joueurs, il y en a plein. Il y a Gueye au PSG, notamment, etc. Et c'est vrai que ça dépend aussi de la force des sélections et de leurs relations avec les clubs. En Afrique, pour répondre à Philippe, c'est quand même moins automatique et il faut que les sélectionneurs s'emploient beaucoup pour convaincre les joueurs et les clubs de les libérer parce que les clubs font pas mal pression.
Voilà qui nous fait glisser tout tranquillement parce que c'est une histoire de calendrier, vraiment. Hein, cette histoire de CAN qui est passée de juin à janvier pour les raisons qu'on connaît ou des raisons plus ou moins obscures. Le calendrier 2022, la question, c'est calendrier de tous les dangers et je pose la question. Des cadences qui sont incroyables tout au long de la saison, ça nous amène grosso modo, on va dire, pour schématiser pour ceux qui nous écoutent, qui suivent pas ça de très très près, à deux psychodrames. C'est un, l'équipe de France qui va devoir bénéficier seulement d'une dizaine de jours, 10 ou 12 jours, ça dépend, de préparation avant la Coupe du Monde au Qatar. Et deux, un Boxing Day imposé, Boxing Day à la française, comme en Angleterre, c'est-à-dire qu'on va jouer deux journées de championnat entre Noël et le jour de l'an, alors que ce n'est pas franchement la tradition française. D'ailleurs, dans la charte du syndicat de l'UNFP des joueurs, il y a deux semaines qui sont imposées, deux semaines de break. Est-ce que c'est pour les footballeurs le calendrier de tous les dangers 2022
Les joueurs vont péter les uns après les autres. Ça va être ça, parce qu'on ne peut pas anticiper une préparation du mois de juin jusqu'à après l'année suivante. Ce n'est pas possible en multipliant en plus les compétitions, parce que vous ne préparez pas de la même façon quand vous faites la Ligue 1, quand vous allez préparer une Coupe du Monde, après une Ligue des Nations. Enfin, c'est un problème. Après, on le savait, c'est juste le résultat finalement de la mise en place d'une Coupe du Monde au mois de novembre-décembre. Le résultat, c'est ça. C'est qu'on le savait. Aujourd'hui, on y fait face. Les joueurs vont y faire face. Les sélectionneurs, quand vous en parlez avec Didier Deschamps et son staff, ils sont sur le cul, passez-moi l'expression, parce que c'est un manque de respect. Parce qu'en 10 jours, tu peux pas préparer une équipe correctement. Alors après, on va te dire, oui, mais ils sont dans la continuité finalement de leur saison, donc la préparation sera pas la même. on peut aussi acter là-dessus. Mais aujourd'hui, les joueurs vont multiplier les blessures et ce sera ça parce que c'est football à outrance. Ils vont enchaîner toutes les semaines, décalage horaire, changement de température et compagnie. Et donc, ça va être ça. Ouais.
Et au-delà de cette overdose, notre ami Arsène Wenger qui propose un mondial désormais tous les deux ans. Bon, je dis ça, je dis rien.
L'autre risque, c'est...
Encore autre chose, mais...
Oui, enfin, bon, c'est tous les deux ans, hein, pas tous les quatre ans.
Oui, oui, non, donc, mais... C'est autre chose, mais ça... Non, non, mais il pourrait y avoir un mondial tous les deux ans et qu'il n'y ait pas plus de matchs, fondamentalement. C'est encore autre chose, c'est juste ça. On peut être contre le mondial pour tous les deux ans, mais je pense pour d'autres raisons.
On parlait d'Didier Deschamps, messieurs. On parlait d'Didier Deschamps et on va donner la parole à nos amis d'Odoxa. Bonsoir Erwan Lestran.
Bonsoir.
Directeur d'études pour Odoxa, avec cette semaine un baromètre Odoxa RTL Kenéo qui est consacré à l'équipe de France de football et notamment la Ligue des Nations. Alors dans l'ordre, cher Erwan, ce qu'on constate, c'est que finalement, eh bien, l'équipe de France redevient, après le couac du dernier Euro, redevient extrêmement populaire.
Absolument, l'équipe de France regagne en popularité. On a mesuré son image cette semaine. Et ce qu'on voit, c'est qu'après la désillusion de l'Euro, qui avait détérioré l'opinion des Français sur leur équipe nationale, aujourd'hui, 64% des Français ont une bonne opinion des Bleus. C'est 12 points de plus qu'après l'élimination face à la Suisse. Et 87% des amateurs de football ont une bonne opinion de l'équipe de France. C'est 16 points de plus. Donc on voit bien que l'équipe de France là revient au niveau qui était le sien avant l'élimination face à la Suisse, et que ce sont ces performances sportives qui ont retissé le lien parce que bah, probablement il y a des doutes qui s'étaient installés et qui sont en train d'être levés et qui ont été levés avec cette bonne performance sportive à la Ligue des Nations.
Commentaire, pas commentaire là-dessus. On passe à la question suivante. Vous êtes d'accord? La Ligue des Nations, elle a trouvé son public, Erwan Lestran?
Oui, alors faut aussi avoir en tête que non seulement il y avait un plateau final de très grande qualité avec le vainqueur de la Coupe du Monde, le vainqueur de l'Euro, un demi-finaliste de l'Euro, un demi-finaliste de Coupe du Monde. Donc en plus, il y a une victoire française, mais en tout cas, la Ligue des Nations a fait son entrée dans l'agenda sportif des Français. 6 personnes sur 10 parmi les Français, 8 personnes sur 10 parmi les amateurs de football nous disent que c'est une compétition de bon niveau. Ils sont aussi nombreux à nous dire que c'est une compétition intéressante. 76% des amateurs de football nous disent que c'est une compétition qu'on aura plaisir à suivre lors des prochaines éditions. Là où c'est un peu plus bas, c'est 61% des amateurs de football qui nous disent que ça fait désormais partie des événements majeurs en football. C'est normal parce que c'est une compétition qui a du mal à s'installer. Il faut se rappeler qu'au moment du lancement de la Ligue des Nations, il y a 3 ans dans notre sondage déjà avec RTL, la moitié des Français et des amateurs de football jugeaient que c'était une compétition qui était de trop en s'ajoutant à l'Euro et à la Coupe du Monde.
En quelques mots, Erwan, s'il vous plaît, après la Ligue des Nations gagnée par l'équipe de France, objectif Coupe du Monde, et là aussi, une majorité de Français voient l'équipe de France, voient ou plutôt l'équipe de France et les Bleus de Deschamps, eh bien, remporter la compétition.
Absolument. 42% des Français voient l'équipe de France remporter la Coupe du Monde 2022, tout comme 56% des amateurs de football. Ce sont des pronostics de victoire beaucoup plus hauts que ce qu'on mesurait avant la Coupe du Monde 2018 pour la France. Ceci dit, et on l'a vu, nos sondages étaient très favorables avant l'Euro, les pronostics des Français ne remplacent jamais la réalité du terrain.
Merci beaucoup Erwan Lestran. Permettez que je garde la dernière question sur le ballon d'or dans les tirs au but. Vous êtes d'accord ? Erwan, je vais garder cette thématique pour les tirs au but. Merci beaucoup. Sachez que vous retrouverez davantage d'informations sur ce baromètre extrêmement intéressant proposé par Odoxa pour RTL et pour Kenéo demain sur RTL à 9h. Merci Erwan Lestran, directeur des études pour Odoxa. Page de pub, les tirs au but qu'on va rallonger un peu avec notamment un débat également sur le ballon d'or, sur ce que pensent les Français. C'est très intéressant. À tout de suite.
RTL.
On refait le match. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les amis, mais je ne vois pas le temps passer. J'espère que c'est la même chose pour ceux qui nous écoutent derrière leur transistor.
Ça serait mieux.
Ou leur tablette, ou leur téléphone, ou l'autoradio, bref. Mais il nous reste une petite vingtaine de minutes. Il y aura les tirs au but tout à l'heure, avec un classement général provisoire, je le rappelle, dont la première place est occupée à égalité par Sébastien Tarrago, Philippe Sanfourche et Gilles Verdez. Et j'ai pas mal d'autres questions d'actualité à vous poser. Mais contrairement à ce que j'ai pu annoncer juste avant la pub avec notre ami Erwan Lestran, nous n'allons pas faire un tir au but sur le ballon d'or, mais un mini-débat quand même. Mais on y reviendra plus longuement dans les prochaines éditions dont on fait le match. Sachez que pour les personnes, les Françaises interrogées dans le baromètre de cette semaine, Odoxa, RTL, Kenéo, ce n'est pas Karim Benzema qui arrive en tête pour parmi les Français, hein, qui arrive en tête pour recevoir ce ballon d'or.
Mais c'est des gens qui sont passionnés par le football?
Non,
c'est pas l'ensemble des Français.
Attendez.
Il y a les deux, il y a une ventilation.
Je suis surpris. Et c'est qui alors?
Et sondage fait après la Ligue des Nations, Christian?
Ce sont des amateurs de football. Sur cette question très spécifique, ce sont les amateurs de football.
Très étonnant.
Après la Ligue des Nations, a été fait le
sondage. Ça se joue, il faut le dire, à 1%. Hein. On est d'accord.
D'accord. Donc c'est qui? C'est avec Mbappé.
Question, Baptiste. Non.
Le sondage a été fait après la Ligue des Nations.
Il a été fait. Il a été fait.
Il a été fait. Il y a ça quelques jours après la Ligue des
Donc
Nations.
Donc c'est Kanté. Oui. C'est qui?
Et tout à fait.
D'accord.
Ouais. Kanté.
C'est N'Golo Kanté qui n'était pas présent à la Ligue des Nations. Donc ça se joue à 1%. Je crois que 61% des Français, estiment que N'Golo Kanté pourrait avoir le ballon d'or devant Karim Benzema à 60% et Kylian Mbappé arrive légèrement derrière avec 55%.
55%.
Non, je suis surpris parce que je pensais que ce serait contre Karim Benzema, mais quelque part c'est aussi pour N'Golo Kanté et la reconnaissance d'un milieu de terrain défensif, donc ça c'est plutôt positif pour le coup, parce qu'il a fait une année exceptionnelle, pardon, il a gagné la Ligue des Champions, donc c'est pas honteux qu'on pense à lui.
Et ça traduit bien toute la complexité finalement dans la manière de déterminer le ballon d'or, puisqu'il y a plusieurs critères, on le sait bien, il y a le palmarès, il y a évidemment l'aura du joueur, son esthétisme, il y a également une notion,
la classe,
dont on parle peu, souvent, c'est de fair play, de classe, de l'image globale du joueur. Et là on voit bien qu'il y a N'Golo Kanté, et encore une fois, souvent dans ces baromètres, dans les sondages, on est sur quelque chose sur un instantané, sur une photographie de l'instant, et là on le rappelle, il n'était pas là, N'Golo Kanté, dans la victoire de la Ligue des Nations, donc ça montre qu'il est ancré profondément dans le cœur des gens.
Il est profondément populaire, hein, je suis entièrement d'accord. C'est quelqu'un qui est aimé. Quand vous demandez aux gens quel est le footballeur, même au-delà de français, que vous aimez, c'est N'Golo Kanté, par sa modestie, par son rôle, parce qu'il ne prononce jamais un mot plus haut que l'autre, parce qu'il est indispensable, donc il réunit beaucoup de cases. Après, sportivement, ça me paraît quand même un peu compliqué de penser qu'il sera classé devant Benzema. Il sera loin derrière.
Alors vous
loin,
m'avez parlé
loin derrière.
De l'aspect sportif, les critères, les stats, le palmarès, etc. Je suis obligé de mettre quand même les pieds dans le plat. Il y a aussi un critère un peu marketing, quand même.
Dans le règlement, non.
Pourquoi ?
Mais après, est-ce que par habitude, tu vas voter plus Messi, plus Ronaldo, quand, je ne sais pas, mais en tout cas, dans le règlement du Ballon d'Or, non.
Il y a eu quelques flops.
Il y a la carrière.
Ah oui,
Je croyais que vous parliez dans la manière dont les gens devaient voter.
Non, en tant que tel.
Oui, il y a des traumatismes, le traumatisme Nedved, par exemple, etc. C'est beaucoup mieux pour l'ensemble du groupe qui distribue le Ballon d'Or, que ce soit Messi, Ronaldo ou Benzema. Voilà, ça c'est sûr.
Après la réalité, la réalité, moi je fais partie du groupe qui distribue le Ballon d'Or, donc je précise par honnêteté. Mais la réalité, c'est qu'il y a un nombre de journalistes qui votent, et ces gens-là ne reçoivent pas de consignes pour voter pour les uns ou pour les autres. Simplement, il y a des règlements. On peut remettre en cause. Parfois, il y a des votes qui sont très surprenants. On va pas se mentir. Parfois, je me rappelle d'une année où Messi avait été premier chez certains jurés, alors qu'il avait quasiment rien fait de l'année. C'était très étonnant. Mais on peut en discuter.
Mais dans les considérations marketing, pour prolonger un peu le débat, c'est quand tu es observateur journaliste en Malaisie, tu vois davantage des matchs de Lionel Messi.
À notre époque? Est-ce qu'à notre époque, on voit pas tout, on voit au moins tous les buts marqués? Et vous parliez de marketing, franchement, quand Modric le gagne, vous pensez vraiment que ce jour-là, France Football et le groupe Amaury se disent « Oh là là, génial, c'est Modric, on va vendre des millions d'exemplaires ». Non, je ne crois pas. Et pourtant, c'est Modric qui l'a gagné. Et c'était il n'y a pas longtemps.
Et alors, on a un débat très franco-français entre N'Golo Kanté, Benzema et Mbappé. Mais à l'arrivée, c'est Lionel Messi.
Ouais. C'est Messi, sans doute devant Benzema. Messi devant Benzema et la troisième place, peut-être Lewandowski.
Et Jorginho, par rapport aux critères, c'est difficile de
l'inscrire totalement. Pas tous,
mais
pas tous les
il ne veut pas le gagner, a priori. Mais enfin, franchement, il devrait quand même être dans le top 5. Hein.
Et Haaland?
Non, il est loin.
Pas invité, il n'est pas invité.
Il est loin.
Sélection, même en club, ce n'est pas non plus extraordinaire sur la scène européenne, en Ligue des Champions.
Encore une fois, ça dépend ce qu'on met derrière le Ballon d'Or et où on place le curseur de l'émotion. On dit Jorginho, évidemment, puisqu'il a gagné la Ligue des Champions et il a gagné l'Euro. Donc sur le critère palmarès,
Mais il n'a pas imprimé.
Mais quand on le regarde objectivement, que ce soit avec son club de Chelsea ou dans sa sélection, il y a dans les deux cas au moins 3, 4 voire peut-être 5 joueurs que moi j'estime être au-dessus de lui.
Ouais, mais dans c'est pas aussi une question de charisme.
Donc au final, on ne peut pas donner le ballon d'or à un joueur qui n'est jamais le meilleur dans l'équipe.
Regarde 2018, Varane, il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Coupe du Monde. Quelle case tu peux cocher supplémentaire là-dessus ? Aucune. En termes de charisme, alors après il y avait d'autres Français, etc. Mais là aujourd'hui ça joue aussi là-dessus. Jorginho, je suis d'accord avec toi. Mmh. Aujourd'hui il coche toutes les cases, il gagne toutes les meilleures compétitions de l'année.
Sauf qu'en finale, c'est au moment où Verratti lui dit t'es gentil, tu me laisses le ballon, tu te mets sur le côté. Et puis et c'est là que le match se tourne et que l'Italie remporte l'Euro. Donc en quoi est-ce que Jorginho est le meilleur joueur de l'année ?
Alors le fait qu'il n'y ait plus que des journalistes qui votent va faire que la prime à la classe de Messi ou de Ronaldo va un tout petit peu s'effriter. Quand c'était des sélectionneurs ou des joueurs qui votaient aussi, eux les sélectionneurs ils votaient quel joueur aimeriez-vous avoir dans votre équipe globalement dans leur tête, et les joueurs quel joueur aimeriez-vous avoir à vos côtés, j'aimerais avoir Messi, Ronaldo, tout le monde. Donc là les journalistes, souvenez-vous quand il y a eu les épisodes controversés, à un moment il y avait Wesley Snyder dont on avait dit qu'il était un ballon d'or potentiel, les journalistes je crois, j'en suis quasiment persuadé, l'avait mis en tête de leur collège.
Il l'aurait gagné cette année-là, voilà. En 2010.
C'est ça. Donc les journalistes sont un tout petit peu plus orientés sur le palmarès, la rigueur, l'équilibre, et c'est là où Jorginho peut être dans le top 5. Mais avec les sélectionneurs, les joueurs, jamais.
Bon, je crois que ça va nous animer encore jusqu'au combien d'ailleurs ? C'est le
29 novembre.
Oui, la musique qui annonce la publicité, et derrière la publicité, mesdames, messieurs, les tirs au but avec pas mal de questions d'actualité. À tout de suite, si on fait le match, la dernière ligne droite.
RTL, on refait le match. Claire. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La dernière, toute dernière ligne droite d'On fait le match avec nos quatre mousquetaires du soir, Sébastien Tarrago, Gilles Verdez, Baptiste Després, Philippe Sansfourche, avec d'autres questions d'ailleurs. Hein. Ce sont les tirs au but qui auraient pu faire l'objet de gros débats, mais le temps nous presse. Alors, les tirs au but, classement général provisoire, Verdez, Tarrago, Sansfourche, 3 points. Je ne compte pas ce qui s'est passé avec Florian Gazan samedi dernier, c'était un peu confus.
Donc, non, bah dites donc, c'est pas très gentil.
C'était un match amical, donc voilà, il n'y avait pas de. Non, mais, Florian, si tu nous entends. Allez, c'est parti. On va essayer de terminer un peu en détente et avec le sourire, quoique, il y a un sujet qui est un peu moins drôle. D'abord, Emmanuel Macron, le président de la République, mesdames, messieurs, footballeur cette semaine, événement médiatico-politico-communico-sportif de la semaine. Alors, il y a plusieurs grilles de lecture, de mon point de vue, hein, dans la prestation du président de la République sur le terrain de Poissy, cher à notre ami Carl Olive. Question. Ça, c'est un peu comme un quiz. Pourquoi le numéro 3 sur le maillot du chef de l'État ?
Alors, on a bien suivi ce
numéro 3. C'est faire 3 jours, on ne l'a que trop suivi. Mais...
C'est le maillot de son idole.
Non.
Non.
Pourquoi le numéro 3 ?
Bon, bah, vous ne savez pas. Je vous donne la réponse. Parce qu'il avait déjà le numéro 3 dans l'équipe de l'ENA.
C'était l'échauffement, ça comptait pas. Ça.
École nationale d'administration, il avait le numéro 3. Oui. Alors, vous auriez pu me dire 3, troisième dose. Non. Vous auriez pu me dire 3
dans l'aube.
3, le nombre de 5, mandats 4, qui comptent effectuer.
3%. Non, mais des choses comme ça.
Ah, vous nous avez séché.
Il y avait une grille d'électeurs. Ouais. Emmanuel Macron.
Vous êtes trop loin.
Alors là, deuxième question.
0-0.
Là, attention.
Ça peut être long sur Macron, là.
C'est la deuxième et dernière question.
C'est bien.
Je me suis beaucoup amusé avec cela. Emmanuel Macron, plutôt récupérateur ou relanceur ?
Ni l'un ni l'autre.
Récupérateur.
Non, ça se dit pas ça.
C'est-à-dire récupérateur.
Bah, récupérateur d'opinion, de com, de ce que l'on a vu sur. Et là, il s'agit pas.
Ballon, moi.
Il s'agit pas de. On peut s'inclure parce que tous les médias confondus ont versé dans cette publicité gratuite. Il aura échappé à personne que.
Mais qui savait pas jouer au football déjà.
Voilà, j'ai vu des choses surréalistes sur des chaînes d'infos. Toutes l'ont fait, donc il s'agit pas d'en stigmatiser une. Où des gens commentaient les gestes techniques en disant que son penalty était complètement raté, était peut-être une panenka mais pas une panenka. C'était totalement lunaire.
Et tiré au centre en plus.
La réalité, c'est que Carl Olive Olive s'est vu confier une mission gouvernementale.
Oui, bien sûr.
Pour lancer la campagne, d'ailleurs, hein, Carl Olive, hein, sur le plan du football, je trouve.
Hein. Ouais, mais Carl Olive, c'était un vrai footballeur pour le coup.
Bon, les amis, on y va, parce que là, j'ai mais une question sérieuse. Un point pour Philippe Sanfourche. Parce que relanceur, c'était le plan de relance. On aurait pu aussi.
On a compris, chef, là.
Là, je vous demande un peu plus de sérieux. Vous allez évidemment l'adopter, c'est normal, parce que c'était aussi une actualité qu'on ne pouvait pas ignorer. Furiani, c'est désormais officiel. Il n'y aura désormais plus de matchs le 5 mai. Ça, c'est officiel. Je vous rappelle, Furiani, 19 morts, 2357 victimes, beaucoup d'amis de RTL, et puis ici, même Jean-Baptiste Dumas, journaliste à RTL, à qui on pense très fort toujours. Question, plus de matchs le 5 mai pour la Ligue 1, la Ligue 2, le foot vraiment professionnel, est-ce que c'était la meilleure solution?
Oui, bien sûr.
Gilles Verdez.
Bien sûr. Moi, j'étais à Furiani, j'attendais ça depuis des dizaines d'années. Et c'est pas gelé, c'est sacralisé. J'aime bien le mot sacralisé. Et pour la mémoire de toutes les victimes, de toutes les familles, de toute la Corse, donc de toute la France, il n'était pas digne et pas possible de jouer le 5 mai. Donc la décision a été tardive, mais je la salue vraiment, vraiment.
Même s'il y avait eu des matchs, c'est aussi le deuxième courant de pensée. C'était l'occasion de rendre hommage de façon plus solennelle. Mmh. Partout en France, avec une minute de silence, etc. Voilà.
Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Le fait est qu'en Corse, et les gens qui étaient à Furiani aussi, sont plutôt visiblement sur la ligne de l'absence de match ce jour-là.
Donc ça se respecte.
Donc je le respecte. Moi, je trouve que ça aurait été encore plus... Mais encore une fois, c'est qu'un avis personnel. Mais je trouve que ça aurait été effectivement encore plus beau que quand il y avait des matchs le 5 mai, il y ait à chaque fois un événement qui rappelle... Ce drame.
Et le foot amateur aura lieu le samedi et le dimanche, mais avec la minute de silence et un brassard pour le football amateur. Petite question concernant Newcastle acheté par l'Arabie Saoudite. C'est une chance de manquer, c'est tordu comme question ça, c'est une chance de manquer ou un risque d'éviter pour l'Olympique de Marseille?
Vous vouliez que...
Oh là là. Parce qu'on a toujours parlé d'un rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie Saoudite.
Non, visiblement, ça en était loin.
Personne.
Mais pour le coup, l'Olympique de Marseille serait... Enfin, les supporters de l'Olympique de Marseille seraient ravis d'avoir la manne financière que va avoir Newcastle dans les mois qui viennent.
Moi, je pense que cette manne ne serait jamais arrivée à Marseille parce que la Première Ligue l'avait refusée une première fois, acceptée on ne sait pas comment, et je pense que les instances françaises auraient refusé. Enfin, j'espère.
Bon, donc il n'y avait personne. J'avais envie d'une petite question parce qu'on va attaquer la Ligue 1 avec Silvestro, Domergue, Castaldi et Durieux. Est-ce que vous vous régalez? C'est le retour du championnat de France. C'est un total régal cette Ligue 1 actuellement?
Vous plaisantez, j'espère. Vous avez suivi le match d'hier au Parc des Princes parce qu'on a beaucoup parlé de l'arbitrage. Souvent quand on parle de l'arbitrage, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose à côté. Et je peux vous dire que c'était une purge, mais... Absolue.
Deux points pour Philippe Sanfourche ce soir, un point pour Gilles Verdez. Philippe Sanfourche prend le commandement du classement général provisoire. Merci Sébastien.
Je m'arrête là. Je m'arrête là, je reviens dans un an.
Merci Baptiste, merci Philippe. Après les informations de 20h RTL Foot, avec toute l'équipe d'RTL Foot et surtout avec vous qui nous êtes fidèles bien évidemment. Très bonne soirée, très bonne nuit à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.